10h22 minutes dans le Point de Max à Boulevard 102.1. Excellent lundi sous un magnifique ciel bleu à Québec. Mais c'est pas parce que c'est un beau ciel bleu qui fait chaud. Bien au contraire, c'est moins 15 au thermomètre, mais attention, surtout moins 25 avec le refroidissement éolien. Et on va aller rejoindre quelqu'un qui est dans un tout autre climat actuellement, me partageait que, puis on y avait parlé, c'était la semaine passée, je me souviens pas quand exactement, mais il me parlait là, d'une belle journée bien ensoleillée, qu'un genre de 20 degrés du côté de Paris. Georges Mercier, bon lundi.
Salut Max.
Fait que tu me disais que c'était une autre belle journée du côté de la France, mon chanceux.
Ben, au risque de vous rendre jaloux, il fait encore 20 degrés, gros soleil. On dirait que le printemps est arrivé d'avance. Je chante du Paul Piché dans ma tête depuis ce matin.
Le retour au Québec va être douloureux dans les prochains jours. Georges, c'est toi le pire.
Ne m'en parle pas.
Georges Mercier, analyste politique international. On n'avait comme pas le choix de se parler aujourd'hui avec qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine. Puis quand on s'était parlé dans les derniers jours, ben là, on voyait que ça se préparait beaucoup. Donald Trump qui avait lancé un ultimatum à l'Iran. Puis là, on attendait un peu de voir, OK, à quel moment ça va péter. Puis ça a pété en fin de semaine, les États-Unis qui ont frappé en Iran. Puis depuis, ben, ça a quand même escaladé assez rapidement. Est-ce que tu es surpris par l'ampleur de l'escalade rapide ou c'était à prévoir?
Ben, il y avait une question qui se posait. C'est que plusieurs analystes pensaient que dans le cadre des négociations avec l'Iran, négociations qui portaient sur quoi? La capacité de l'Iran à avoir une bombe nucléaire et son programme de missiles balistiques, programme qui lui permet de frapper des bases dans la région. Ce que plusieurs personnes pensaient, c'était que Donald Trump va vouloir faire pression. Donc, on va avoir une attaque limitée en Iran pour leur montrer qu'on est sérieux dans nos menaces. Là, ce à quoi on a assisté samedi matin, c'est pas une attaque limitée du tout. C'est une attaque de grande ampleur. On nous parle de la plus grande attaque aérienne de l'histoire, ce qui est peut-être pas faux, où on a tenté de décapiter le régime iranien. Donc, les États-Unis ont commencé par une escalade majeure. Première raison pourquoi? Ben, parce que la guerre n'a pas été provoquée. Ils n'ont pas répondu à une frappe iranienne. Ce qu'ils ont dit, c'est « vous ne voulez pas vous plier à nos demandes, donc on va vous frapper ». Et là, le problème, c'est que par la suite, l'Iran a commencé à répliquer de manière complètement indiscriminée. À lancer notamment des missiles sur les monarchies du Golfe, qui, elles, n'étaient pas partie prenante de la première opération américaine. Donc, si on réussit à faire, c'est pas encore confirmé, mais c'est peut-être ça qu'on va voir, c'est transformer un conflit qui, au départ, était Israël-États-Unis contre l'Iran en un conflit qui serait Israël-États-Unis, les monarchies du Golfe et éventuellement peut-être même d'autres pays contre l'Iran. Donc, il va falloir voir qu'est-ce que les différentes parties, ce à quoi elles s'attaquent, à qui est-ce qu'elles tuent finalement pour voir si ça dérape encore plus.
Mais c'est drôle que tu l'abordes parce que j'allais te poser la question pour bien mettre la table pour la suite. Qui sont les joueurs en ce moment qu'on surveille? Parce que tu l'as dit, là, en ce moment, c'est États-Unis, Israël contre l'Iran. Mais il y a un paquet de monde dans ce coin-là. On sait comment l'Europe est faite. Là, il y a beaucoup, beaucoup de pays dans pas beaucoup, beaucoup d'espace. Là, il y a énormément de pays qui déjà vont être affectés assez directement. Les joueurs qu'on surveille le plus, là, ce sont lesquels?
Les joueurs principaux, c'est évidemment les États-Unis, Israël et le régime à Téhéran. Les joueurs secondaires, ce sont les monarchies du Golfe, le Qatar, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite. Et ce qu'il faut comprendre de ces pays-là, c'est que ce sont les exportateurs majeurs de pétrole et qui ont un intérêt très, très marqué pour la stabilité régionale. Ils veulent pouvoir continuer à exploiter leur pétrole, à l'envoyer partout dans le monde. Et généralement, les monarchies du Golfe ne voulaient pas qu'il y ait d'attaque en Iran parce qu'elles ne voulaient pas de déstabilisation. Ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont été frappées. Moi, une image que j'ai trouvée fascinante, c'est de la fumée à Dubaï. La fumée à Dubaï, c'est significatif parce que Dubaï se présentait, cette grande ville du Moyen-Orient-là, comme un havre de paix et de sécurité. Dubaï, c'est l'endroit où n'importe quel touriste dans le monde vont pour avoir du plaisir, non pas pour risquer un tir de missile sur leur hôtel. Et c'est ça qu'on a vu. Et là, ça veut dire qu'on va peut-être avoir ces pays-là qui s'embarquent dans le conflit. Donc, on aurait une attaque beaucoup plus concertée contre l'Iran. Puis après, Maxime, il y a d'autres joueurs qui sont aux abonnés absents. Ça, c'est les grandes puissances européennes. Parce que aussi bien la France, le Royaume-Uni que l'Allemagne ont été très, très, très modérés dans leur réaction face à l'attaque américaine. Puis je t'avoue que c'est surprenant. C'est surprenant parce que s'il y a bien un régime politique sur la planète qui est opposé depuis un demi-siècle aux intérêts occidentaux, qui a du sang occidental sur les mains, c'est bien le régime à Téhéran. Et c'est surprenant que, à la différence du Canada, nous, dès le départ, on a soutenu l'offensive américaine, que la France et le Royaume-Uni ont voulu se tenir sur la ligne de côté sans rentrer dans le jeu. On verra s'ils vont rentrer, mais pour l'instant, c'est ça qu'il y en est.
Est-ce que tu étais surpris d'ailleurs de voir que Mark Carney et le gouvernement canadien très très rapidement sont allés sans équivoque appuyer le geste des États-Unis alors que d'habitude, ou du moins c'est l'impression que j'ai personnellement, Mark Carney et le Canada ont l'air un peu plus frileux des fois à aller donner des appuis comme ça qui pourraient être controversés?
Je pense que c'est significatif du fait que le Parti libéral du Canada, sous Mark Carney, ce n'est plus le Parti libéral du Canada sous Justin Trudeau. Si Trudeau avait été au pouvoir, on aurait eu une larme, on aurait parlé du droit international, de la protection des civils, ou on aurait critiqué, bon, pas trop sévèrement, parce qu'on a quand même peur des États-Unis, on aurait critiqué l'action. Sous Mark Carney, on a un leader qui est beaucoup plus réaliste et quasiment cynique en relations internationales, qui comprend que l'usage de la force parfois est légitime et qui a voulu dès le départ dire « nous sommes d'accord avec les États-Unis », mais il faut quand même dire, Maxime, que « talk is cheap ». Parce que pour l'instant, on n'a pas de chasseurs canadiens qui participent à l'offensive. L'armée canadienne n'est pas impliquée. Donc, c'est une chose d'envoyer une belle lettre de soutien pour s'assurer du soutien américain. C'en est une autre de participer pour de vrai au conflit.
Dans les joueurs, dans les acteurs, on n'a pas parlé de deux joueurs qui pourraient être importants. Puis, j'ai envie de dire qu'on espère qu'ils ne le deviennent pas, la Chine et la Russie. Qu'est-ce qui pourrait arriver dans un monde, dans un scénario où la Chine et où la Russie décident d'embarquer, de foncer dans le tas?
Ben, écoute, il y a un scénario très, très peu probable, je vais être clair là-dessus, où ça pourrait être le début d'une guerre très, très, très importante. Parce que si la Russie décidait de soutenir l'Iran et qu'on avait des chasseurs américains qui se battaient avec des chasseurs russes, ce serait une confrontation directe entre ces deux superpuissances-là. Si la Chine décide de rentrer dans le jeu, là, ce serait catastrophique. Ce serait catastrophique parce qu'on aurait un vrai affrontement, indirect, mais quand même un vrai affrontement, entre les États-Unis et la Chine. La raison pour laquelle il faut peut-être pas trop s'en faire, c'est que la Russie, puis on l'a vu avec ce qui s'est produit en Syrie il y a 2 ans, la Russie est prise en Ukraine. Elle n'a pas les ressources pour venir en aide au régime iranien. Elle n'est pas capable de se sortir de l'Ukraine pour peser son poids puis protéger son allié. Au niveau de la Chine, la situation est beaucoup plus intéressante parce que la Chine importait beaucoup de pétrole de l'Iran, puis du pétrole qui était sanctionné, donc qui lui coûtait moins cher. Si les États-Unis parviennent à faire ce qu'ils veulent faire, puis faire un changement de régime en Iran, et qu'on décide qu'on n'envoie plus autant de pétrole qu'avant en Chine, là, les États-Unis vont avoir un levier de négociation immense dans d'éventuelles négociations commerciales avec la Chine. Parce qu'un élément qu'il faut comprendre, je pense, Max, si on prend un peu de survol par rapport à ça, c'est qu'on vit une période où les relations internationales se reconfigurent. Pendant très longtemps, là, l'opposition majeure, ça a été la Russie, les États-Unis, et le théâtre, c'était l'Europe et le Moyen-Orient. On arrive dans un monde où l'opposition majeure, c'est les États-Unis et la Chine, et où le théâtre le plus important, c'est l'Asie du Sud-Est. Le problème, c'est que les Américains n'ont pas des forces militaires infinies. Donc, il faut qu'ils arbitrent où ils mettent leurs forces militaires. S'ils parviennent à changer le régime en Iran, ils viennent de redéfinir les relations de puissance au Moyen-Orient, ce qui veut dire qu'ils pourraient retourner se concentrer vers la Chine pour mieux protéger Taïwan éventuellement. Taïwan, cette île que la Chine veut éventuellement reconquérir. Donc, c'est vraiment un jeu de géopolitique de très haut niveau qui se joue en ce moment. On va savoir dans les prochains jours ou les prochaines semaines si le pari de Donald Trump, que tout le monde a dit qu'il était un pari fou, va avoir été un pari réussi ou non.
Les vrais objectifs de Trump, c'est quoi? Puis à partir de quel moment il va être satisfait de ce qu'il a réussi à faire avec sa frappe contre l'Iran?
Ça, c'est la grande inconnue. Parce que Donald Trump n'a pas proposé de déclaration de guerre formelle, où il aurait dit « je vous attaque pour raison 1, 2, 3, 4 ». On pense que, par exemple, c'est en raison du refus de l'Iran de refuser un programme nucléaire, du refus de l'Iran de cesser son programme de missiles balistiques, mais c'est peut-être aussi parce que les États-Unis ont décidé, ça fait 50 ans, ça va faire 50 ans depuis 79, qu'on a un régime là-bas qui est animé par 3 valeurs, mort à l'Amérique, mort à Israël, contrôle de la vie des femmes, on n'est plus capable de tolérer ça. Si l'objectif, c'est un vrai changement de régime, alors ça pourrait être très long. Parce que le régime iranien, le gros problème, c'est qu'il n'a pas été conçu pour être efficace, il a été conçu pour être résilient. Puis en Iran, on a ce qu'on appelle les gardiens de la révolution, il y en aurait à peu près 200 000, et ça, ce sont des gens qui sont armés, fanatiquement idéologiques, mais surtout, qui se sont enrichis de manière très importante grâce au régime iranien. Donc, quand dans un pays, vous avez 200 000 personnes armées jusqu'aux dents qui profitent directement du régime, si le régime partait, il perdrait beaucoup d'argent, ça donne un méchant intérêt à le garder en place, ce régime-là. Et pour l'instant, on n'a pas de signe de défection. Donc, scénario 1, très rapidement, scénario 1, on continue à frapper pendant une couple de jours. Les États-Unis se disent, on a détruit toutes les cibles militaires. Et là, les éléments survivants du régime disent, on va vous donner un deal. Okay? On va produire des missiles moins puissants. Puis le nucléaire, on va mettre un moratoire là-dessus sur 10 ans. Trump pourrait déclarer victoire. La guerre aurait été courte et il y aurait une forme de victoire. Scénario 2, ça n'arrive pas. On n'a pas d'offre satisfaisante pour le président. Et là, on continue jusqu'à ce que, éventuellement, ça pourrait être très, 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 très long, ben, il ne reste plus de gardien de la révolution pour s'opposer au président américain.
Fait que quand Donald Trump parle d'un genre de 4 à 5 semaines, là, parce que c'est comme ça le timing qu'il a abordé, puis encore là, j'imagine que ça dépend des scénarios, puis tu viens d'en mettre deux sur la table, mais un 4-5 semaines, pour toi, c'est-tu quelque chose de réaliste comme durée?
Parce que, éventuellement, si les États-Unis veulent seulement détruire des installations militaires, là, il n'y en a pas une tonne. Éventuellement, les installations militaires, les avions, les bateaux, les lanceurs de missiles, ils sont détruits. Puis si les États-Unis refusent d'envoyer des soldats sur le sol iranien, et jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on refuse de faire, on veut pas répéter l'Irak, c'est pas du tout l'ambition, ben éventuellement, s'il y a plus de trucs militaires à détruire, l'offensive va prendre fin. La question, c'est combien de temps ça va leur prendre. Chose certaine, on est dans une guerre, on est en plein brouillard de guerre, et il faut faire attention à prendre au mot aussi bien ce que Trump dit que ce que le régime iranien nous dit. Parce que le régime a intérêt à montrer qu'il est encore fort, parce qu'il veut montrer à sa propre population qu'elle n'a pas intérêt à se rebeller maintenant. Et Donald Trump a intérêt, lui, à susciter de la révolte en Iran. Donc, bien sûr qu'il va nous dire qu'il y a des éléments du régime qui voudraient faire défection. Mais c'est peut-être juste une stratégie de guerre psychologique, finalement. Et c'est ça qui est difficile aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas sur le terrain, il y a très peu de personnes sur le terrain. Internet est coupé en Iran. Donc, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui se passe exactement là.
Quand Donald Trump parle de venger les soldats américains qui ont été tués, qu'est-ce qu'il veut dire selon toi? Est-ce que tu penses que vraiment il va le prendre au mot puis il va frapper encore plus fort parce que là, il y a des soldats américains qui sont morts puis il faut vraiment passer un message puis montrer à notre peuple que c'est important d'y aller puis de se battre? Ou c'est juste une phrase un peu lancée en l'air?
Ben, l'affaire, c'est que c'est une guerre qui n'est pas populaire aux États-Unis. Les Américains ne demandaient pas un conflit majeur avec l'Iran et Donald Trump a besoin de justification pour la poursuivre, cette guerre-là. Sa justification première, c'était qu'il y avait une menace imminente. C'est pas vrai. Il n'y avait pas de menace imminente de l'Iran sur la sécurité américaine. On le voit aujourd'hui parce que si vraiment il y avait eu des missiles à plus longue portée, ils auraient frappé ailleurs. Ils ont frappé en proximité parce que c'est tout ce qu'ils pouvaient faire. Donc évidemment, si on a des morts américains, là, ça donne une raison à Trump de continuer le combat pour les venger, comme tu disais. Mais le gros enjeu pour les Américains, c'est qu'ils doivent être très, très, très précis quant à où ils frappent. Parce que s'ils se contentent de frapper des militaires, ça peut paraître une cible légitime pour les Iraniens. Mais s'ils commencent à frapper de manière indiscriminée, puis on a des civils, des femmes, des enfants qui décèdent, là, le mood risque de changer en Iran. Donc, l'opération doit être précise et chirurgicale. C'est plein, plein, plein d'incertitudes, cette affaire-là. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas beaucoup de morts américains. Il n'y a pas beaucoup de civils iraniens non plus qui ont été...
Georges Mercier, rappelle-nous un peu, c'est quoi les règles aux États-Unis pour qu'un président puisse déclencher une guerre? Parce que je me souviens, il y a comme des modalités, puis là, il faut que ça respecte certains critères pour que tu puisses déclencher la guerre sans le Sénat de mémoire. Qu'est-ce qui permet à Trump d'avoir attaqué en fin de semaine?
Techniquement, le président américain ne peut pas déclencher une guerre. C'est le Congrès des États-Unis, la Chambre et le Sénat qui votent une déclaration de guerre. Le problème avec ça, c'est que comme pour toutes les matières constitutionnelles, c'est plus compliqué. Parce que depuis la guerre sur la terreur, tous les présidents, aussi bien Trump que Biden, que Obama, que Bush, ont lancé des petites opérations militaires sans demander l'aval du Congrès. Et éventuellement n'ont pas été punis légalement pour ça. L'argument que la Maison-Blanche va tenter de faire, c'est pas une guerre en ce moment. On n'est pas en guerre, c'est une grosse opération spéciale. Oui, il y a beaucoup d'avions, mais il y a pas de soldats au sol, donc c'est légal. Mais de toute manière, tu sais, ces détails légaux-là, ça, je trouve ça curieux quand on en parle parce que au final, là, les avions sont dans les airs, les bombes tombent. Donc que ce soit légal ou non, là, c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui.
Dans notre concret à nous, on s'attend à une hausse importante du prix de l'essence. En fait, ça a déjà commencé assurément. Est-ce que le conflit peut avoir d'autres impacts du genre sur nous ou vraiment ça va être le prix de l'essence là, qu'on va, avec lequel on va le payer?
Ben, le problème, c'est que le prix de l'essence, il se répercute sur tout. Parce que le prix de l'essence, c'est le prix du transport. Donc, si on a... Puis en général, c'est 10-15 % de la valeur d'un bien qui est déterminé par les coûts de transport et d'énergie. Donc, forcément, si le coût de l'essence augmente, le prix du panier à la consommation va augmenter si ça dure. Hein, si ça dure, et l'inflation pourrait même repartir. Mais ça, ça donne aussi un intérêt très fort au président américain pour que ce conflit-là ne dure pas longtemps. Ce qui est très inquiétant en ce moment, puis je te parlais de réponse indiscriminée de l'Iran tout à l'heure, c'est que le pays s'est attaqué à l'industrie pétrolifère de l'Arabie saoudite et d'autres pays du Golfe qui exportent beaucoup, beaucoup de pétrole. Et là, on voudrait fermer un fameux détroit par où passe 20 % de la production de la planète. Bon, on peut quand même se rassurer un peu. Des réserves de pétrole en Occident, on en a pour faire face à une éventualité comme ça. La production dans ces pays-là n'est pas remise à zéro, mais certains qui risquent d'avoir un choc momentané. On verra si c'est un choc à long terme ou non. On n'a pas encore à craindre pour nos vacances d'été.
Avant de te laisser partir, Georges, est-ce que tu as suivi un peu la mission de Mark Carney en Inde? Là, ce matin, on a annoncé un paquet d'affaires, entre autres. On a annoncé qu'on allait s'entendre sur un gros deal à un moment donné. Mais as-tu suivi ça un peu?
Je n'ai pas suivi de près, mais chose certaine, c'est une bonne chose qu'il y aille parce que les relations avec l'Inde sous Justin Trudeau avaient pris un mauvais tour. Justin Trudeau, on se souvient, quand il était allé là-bas, il s'était costumé, il avait eu l'air d'un deux de pique. En fait, il était temps que le gouvernement canadien répare les pots cassés avec la Chine et avec l'Inde. Et c'est tout à fait caractéristique de ce que Carney fait depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Oui, il voyage beaucoup, mais il tente de nous trouver de nouveaux partenaires commerciaux. Parce que n'allons pas oublier, Max, qu'on a beau peut-être soutenir l'offensive américaine en ce moment, les Américains nous ont quand même beaucoup menacés dans la dernière année.
Georges, merci, analyste politique. Un gros merci. Profite bien pour nous de la belle météo du côté de la France.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Salut, à bientôt. Georges Mercier, un analyste politique qu'on aime beaucoup dans le Point de Max. Au retour de la pause, quelques extraits à vous faire entendre, notamment du débat à la course à la chefferie de la CAQ dans fin de semaine entre Bernard Drainville et Christine Fréchette. Je vais également vous faire entendre Francis Dupuis-Déry. On en a parlé de lui la semaine passée ensemble. Et hier, il était du côté de Tout le monde en parle pour nous dire à quel point le hockey était toxique. Mon Dieu, pour les jeunes garçons qui, de plus en plus, sont racistes, sont homophobes. Et ça, ben, c'est en grande partie, semble-t-il, à cause du hockey scolaire. Fait qu'on va entendre M. Dupuis-Déry. Puis il n'a jamais répondu, d'ailleurs, à mon petit courriel la semaine passée pour se parler. Là. Il ne doit pas l'avoir vu. Il doit avoir beaucoup de demandes. Alors, fait que ça, c'est dans quelques minutes dans le Point de Max à Boulevard.